Des questions plein la tête. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Ah bon ?
Peut-on soigner avec l'effet placebo ? Épisode 4. Un patient avisé en vaut deux. Bienvenue dans Des questions plein la tête sur Radio Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on ne trouve pas toujours de réponses, mais on découvre toujours de nouvelles questions.
Question santé. Top, un célèbre groupe du rock des années 90 en porte le nom.
Justin Bieber.
Non, ça c'est non. Souvent composé d'un mélange de saccharose et de lactose, utilisé en double aveugle pour valider la mise sur le marché d'un nouveau médicament.
Le placebo.
Oui. Il aurait pourtant de réels effets physiologiques, c'est le placebo, évidemment. Deuxième question. On cherche un synonyme de boniment. Escobarderie ou encore plus familièrement, carotte.
Ruissellement. La théorie du ruissellement.
Non. Communément associé à l'effet placebo et considéré comme incontournable par certains, pour d'autres, il pose un problème déontologique et éthique.
Le mensonge,
bien joué. De recherches récentes montrent pourtant qu'il n'est pas nécessaire au succès de l'effet placebo. C'est le mensonge, bravo.
Alors en pratique clinique, la problématique qui se pose éthiquement...
Nicolas Pinceau, chercheur au TIMSE à Grenoble.
C'est qu'on doit obtenir finalement l'accord du patient pour le traitement qu'on va lui administrer et que cet accord, il doit être obtenu de façon libre et éclairée. Donc la problématique qui se pose, c'est que pendant longtemps, on a pensé que quand on donne un placebo, il fallait du coup mentir au patient pour obtenir l'effet placebo. Et du coup, on se retrouvait avec une sorte de dilemme, c'est-à-dire soit je perds l'efficacité parce que je lui dis que je lui donne un placebo, soit... je conserve l'efficacité, mais je le prive de son autonomie de dire non. Et du coup, ça, c'était le dilemme éthique dans lequel on se retrouvait. Et nous, on a essayé de contourner un petit peu ce dilemme éthique en proposant une éducation au phénomène placebo et en expliquant aux gens comment leur cerveau allait réagir à l'administration d'un placebo, même s'ils savaient que c'était un placebo. Et on a essayé de voir si on pouvait récupérer la perte d'efficacité qu'on avait liée au fait qu'on leur ait révélé, qu'on leur administrait un placebo, par le fait qu'on les ait éduqués. Pour le moment, c'était une étude qui était réalisée sur des sujets sains, à qui on faisait expérimentalement mal. On leur trempait la main dans une eau glacée, donc pour essayer de standardiser au maximum le process. On proposait soit un traitement placebo en leur disant que c'était un traitement qui allait les soulager, donc un traitement antalgique, donc c'est la condition dans laquelle le placebo était... on va dire classique, avec un mensonge. Et puis, dans une autre condition, on leur proposait une vidéo dans laquelle ils allaient apprendre comment le placebo allait agir sur leur cerveau et sécréter finalement des molécules d'endorphines, donc des antidouleurs. Et ensuite, on leur administrait le placebo en leur disant « on est en train de vous donner un placebo et ça va agir de la manière dont vous avez vu dans la vidéo ». Et en fait, les résultats montrent qu'on leur mente ou qu'on leur mente pas. Du coup, on obtient le même effet de soulagement. Donc ça permet de réhabiliter un peu l'usage du placebo en pratique.
Même si c'est incroyable, ma première réaction a été d'être un peu déçue. Cette première expérience ne concernait que des sujets sains, en fait. Donc j'ai l'impression que ça reste difficile d'en déduire que ça marcherait forcément avec des personnes réellement malades. Sauf que d'autres équipes de recherche un peu partout dans le monde se sont aussi penchées sur la question. Et elles ont pu obtenir les mêmes résultats, mais cette fois sur des patients atteints de symptômes chroniques.
Des études ont été réalisées sur des patients présentant des symptômes de syndrome du côlon irritable, migraine, mal de dos chronique, fatigue liée au cancer, ménopause et allergie cutanée.
Avec Nisrine, qui désormais mène l'enquête avec moi, la chose qui nous a le plus intrigués, c'est de comprendre ce qui se passait dans la tête des patients pendant ces expériences. Pourquoi le fait de leur expliquer comment fonctionnait l'effet placebo, ça marchait. Et on a réussi à trouver des témoignages de participantes à une étude qui visait à diminuer les symptômes liés à la ménopause. On les a traduits en français pour vous.
J'avais aussi prévenu ma famille que je participais. Je leur ai dit, il y a deux groupes. Un qui reçoit rien, et l'autre qui reçoit des pilules avec rien dedans. Comme ça. Mais c'est exactement ça. Je pense que c'est une bonne explication. Mais ça montre bien à quel point tout ça est bizarre.
Je n'avais aucune attente particulière. Je me disais seulement, pourquoi pas essayer ? J'ai approché l'expérience avec une certaine ouverture d'esprit et, disons, la curiosité.
Je sais qu'il y a des tonnes de choses qu'on ne comprend pas encore. Mais ça se passe plutôt au niveau physique. L'être humain pense qu'il peut toujours comprendre tout ce qui se passe, mais moi, je crois en beaucoup de choses et j'imagine que ça a joué aussi. Parce que je suis très ouverte à tout ce qui est pas identifié.
Les hormones, c'est quelque chose de très concret. Alors ça facilite les choses quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer, mais qu'il n'y a pas d'effet secondaire.
Après avoir pris les cachets pendant 4 semaines, j'avais un peu l'impression que les bouffées de chaleur étaient revenues, même qu'elles avaient augmenté. Mais après, je me suis dit, allez, détends-toi, ne t'énerve pas encore avec ça. Et puis ça s'est calmé et ça allait vraiment bien.
Le simple fait de faire la démarche, de venir ici en étant proactive, je pense que ça a un effet sur nous.
J'ai vraiment apprécié la manière dont la clinicienne a mené la conversation. Les questions qu'elle a posées, celles auxquelles il faut vraiment réfléchir et puis celles qui sont plus superficielles. Et bien sûr, ça m'a orientée vers une perception plus objective. Ça m'a aidée à accepter tout ça. J'ai besoin de parler de certaines choses. Et ici, je peux le faire.
Si on n'est plus obligé de mentir pour utiliser des placebos, on serait tenté de se dire que ça change tout, que de nouveaux horizons s'ouvrent. Mais il subsiste une question importante. On avait pourtant vu dans l'épisode 1 que l'effet placebo, ça soigne pas. Ça fait qu'atténuer des symptômes. Alors, est-ce que c'est pertinent quand même ?
L'administration de placebo permet de soulager des symptômes, mais il guérit pas de maladies réelles. Sauf qu'il y a beaucoup de problématiques de santé à l'heure actuelle qui sont pas vraiment des maladies, qui sont plutôt des syndromes ou un ensemble de symptômes. Les situations médicales se sont beaucoup complexifiées. Pendant les premières moitiés du XXe siècle, en gros, c'était des maladies infectieuses, donc c'était des choses où on diagnostiquait, on avait le traitement, on donnait le traitement, les choses étaient réglées. En fait, maintenant, les gens ont un vieillissement beaucoup plus important. Donc souvent, ils sont polypathologiques, ils ont plusieurs pathologies en même temps. Ils ont des pathologies qui sont chroniques, donc dont on ne guérit pas et il faut vivre avec. Et donc, on sait que cette pathologie chronique va être stabilisée, mais va entraîner des symptômes, des douleurs, des raideurs articulaires. Enfin, il y a tout un ensemble. Et ces symptômes-là, eux, vont être sensibles à l'administration d'un placebo. Mais dans ce cadre-là, bah du coup, le recours au placebo peut avoir une importance. Puis il y a un élément, c'est quand même vraiment de partir de ce qu'ils savent, eux, et de la représentation qu'ils ont, eux, de leur douleur, de leurs symptômes. Et souvent, rien qu'en travaillant sur leur représentation de leurs symptômes, ça améliore les choses. Vous avez aussi des conditionnements qui ont eu lieu dans la voie extrapyramidale, qui est en fait la partie du cerveau qui s'altère dans la maladie de Parkinson. Donc en fait, on sait qu'on est capable de conditionner des malades de Parkinson à l'administration d'un placebo. Puis il y a aussi tout ce qui va être lié un petit peu à des éléments de santé mentale. Il y a commencé à y avoir des preuves dans le cadre de la dépression, par exemple, ou dans le cadre de syndrome anxieux. Il y a aussi une petite expérience qui avait été faite qui est intéressante, dans laquelle vous pouvez prendre un placebo numérique. En fait, vous prenez un faux traitement dans un jeu qui améliore en fait vos performances quand même. Donc en fait, on est capable comme ça de se projeter dans des choses qui sont à la frontière entre le réel et le virtuel.
Les recherches dans ce domaine ont permis de faire émerger ces dernières années les placebos ouverts, ou open placebo, c'est-à-dire des placebos qui sont affichés comme tels. Alors, maintenant que je sais ça, si je veux en acheter pour moi, est-ce que je peux ? C'est le moment, je crois, de faire un petit tour à la pharmacie.
Bonjour.
On fait une petite émission radio sur la question du placebo. Et on voulait savoir si on pouvait vous poser quelques questions là-dessus.
Attendez, je vais demander à mes collègues. Hein. Alors, je vous avoue, les collègues ne sont pas très chauds. Après, il y a des pharmacies dans le coin qui pourraient être un peu plus open, on va dire.
Bon, bah, il n'y a pas de problème.
Okay,
merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
On voulait savoir si on pouvait acheter des placebos dans votre pharmacie.
Vous ne pouvez pas en acheter directement étant donné que je n'en ai pas en stock, mais je saurais faire sous-traiter des gélules ou des comprimés de placebo auprès d'un confrère qui pourrait vous les fabriquer et je peux les rendre disponibles dans mon officine en environ 24 heures.
D'accord, donc on peut les commander.
Oui.
Et est-ce que c'est des choses qu'on vous a déjà demandées ?
Ça m'est rarement arrivé, je travaille depuis 15 ans. Il m'est arrivé une fois d'avoir une ordonnance sur laquelle était marqué placebo. Alors le pharmacien peut être embarrassé parce qu'il se demande si le patient qu'il est qu'il a en face de lui est au courant que c'est un placebo, mais la fois où ça m'est arrivé, finalement, c'était la famille qui m'a tendu l'ordonnance et non pas le patient. Donc la famille a pu être dans la confidence avec le médecin et le pharmacien de savoir que c'était un placebo. Par contre, le patient qui allait l'avaler ne savait pas lui que c'était un placebo.
C'était pas un placebo ouvert avec la boîte
Non, il a fallu le faire fabriquer. J'ai oublié ce qu'il y avait marqué sur la boîte que m'a livré mon confrère. Le placebo, c'est de la matière après tout. Donc, il y avait marqué une formule dessus qui correspond principalement à des excipients sans principe actif. Mais il n'y avait pas marqué placebo sur la boîte.
D'accord, c'est la seule fois où on vous en demandait.
C'est la seule fois où j'ai eu une ordonnance.
Ouais.
Et il est arrivé qu'on me demande spontanément. Alors, je n'en ai pas dans la pharmacie, mais souvent, ce n'est pas le patient lui-même qui demande la placebo, c'est un membre de sa famille. Alors, puisque je n'en ai pas en stock, j'arrive finalement à trouver dans ma pharmacie pas un placebo, mais quelque chose de très anodin et de très peu dosé qui pourrait presque faire office de placebo pour le patient, bien que ça ne soit pas vraiment un placebo.
Et est-ce que vous vous souvenez des indications pour lesquelles les gens sont venus chercher des placebos?
Je ne m'en souviens pas, mais je pense que dans la majorité des cas, le placebo, ce serait plutôt lié à des améliorations psychiques qu'on souhaite chez le patient, que ce soit le sommeil ou que ce soit le stress. Je pense que ce serait ça la majorité des situations. Surtout que les médicaments stress-sommeil, c'est quand même des médicaments qui sont assez montrés du toit, avec des effets secondaires qui peuvent être prononcés sur plusieurs années. Et c'est pour ça qu'il y aurait plutôt des demandes là-dessus.
Et avec vos 15 ans d'expérience en pharmacie, vous vous placez comment par rapport à ces prescriptions ou non d'ailleurs, en tout cas ces prises de placebo, sur les effets que ça peut avoir sur les patients?
Je n'ai pas eu l'occasion de délivrer suffisamment de placebo pour savoir si ça marchait quand j'étais initiateur de la délivrance du placebo, mais je pense que si je le faisais plus souvent, mais bien évidemment ce serait la famille qui serait dans la confidence et pas le patient, je pense que je pourrais avoir de bons résultats.
Et vous parlez de confidence, mais il y a aussi les placebos ouverts qui se sont développés, où c'est écrit sur la boîte et on informe le patient et on l'éduque dessus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà
entendu? Je ne suis pas surpris que ça existe, mais je ne savais pas que ça existait, que peut-être le pharmacien ou une structure de soins pouvait réellement donner une boîte sur laquelle il y avait marqué placebo. Je n'en ai jamais vu, mais c'est intéressant.
Bah, on sait que ça existe, mais on ne sait pas si on peut le trouver en pharmacie, donc c'est ça qu'on cherchait justement.
J'irai faire mes recherches pour savoir si ça peut se trouver facilement.
Merci beaucoup.
Bah écoute, on va à la prochaine pharmacie.
Bon Marie, on ne va pas faire le tour des pharmacies, on doit bien trouver ça sur Internet, on peut tout acheter sur Internet.
Bah, regarde. Mais je tape quoi?
Bah je sais pas, pilule placebo.
Ok.
Tiens, bah voilà, regarde. Tablette placebo sans médicament, bien précisé, 200 grammes. Description, tablette placebo non médicamenteux pour automédication ou pour biorésonance. Tablette composée de saccharose et de lactose. Les tablettes placebo pour l'homéopathie, la biorésonance peuvent être achetées. Commandez ici. Bah voilà. Commandez. Livraison gratuite. 200 grammes correspondent environ à 2950 comprimés. 2950 comprimés, 26,50 €.
Attends, mais c'est pris pour 200 grammes? Tu te rends compte?
Pris par 200 grammes?
Ça fait un truc du genre 120 € le kilo de sucre.
Oh purée.
Pas un peu de notre gueule?
Ouais, ça fait un peu cher le kilo de sucre.
Donc, si je m'achète un placebo, qu'il soit ouvertement ou non affiché comme tel d'ailleurs, ça veut dire que j'accepte de payer pour qu'on me vende littéralement du rien. En fait,
quand on comprend le mécanisme placebo, on comprend en plus que y a pas besoin d'avoir recours à des choses payantes, chères. Donc là, on arrive sur une question qui est un petit peu politique, hein, mais la plupart du temps, les gens voient dans ce type de traitement une forme d'opposition à une médecine qui est vue comme scientifique et marchande, sans voir nécessairement que la plupart du temps, c'est des grosses multinationales qui proposent quand même les traitements placebo très chers. Et donc ils vous vendent rien d'un point de vue marketing. Par contre, c'est assez bien ficelé. Donc, quitte à se faire des placebos, autant se les faire soi-même. Ouais.
Petite anecdote intéressante à ce sujet. À Lyon, le docteur Lemoine, psychiatre, invite justement ses patients à fabriquer eux-mêmes des placebos. Il utilise cette méthode lorsqu'un patient souhaite se sevrer d'un tranquillisant ou d'un somnifère, par exemple. Alors voilà le principe. Le patient achète des gélules vides. Il mélange ensuite du sucre en poudre avec la molécule à laquelle il est devenu dépendant. De cette façon, il se leurre lui-même en ne sachant pas quel jour il prend une gélule contenant un principe actif et quel jour il ne prend qu'un placebo. Pour faire ses propres placebos, on peut aussi aller piocher dans tout le répertoire de la médecine de famille.
Il y a ce que les grands-parents ont transmis, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on est enrhumé, il y en a qui prennent du lait de poule, il y en a qui prennent un grog avec du rhum, du thé. En fait, ces espèces de mixtures-là n'ont la plupart du temps pas d'autre effet qu'un effet placebo. Et il est d'autant plus fort et potentialisé qu'il vous a été transmis par une tradition familiale de gens que vous aimiez bien, etc. Les premiers placebos qu'on reçoit, c'est les bisous magiques des mamans, en fait. Les enfants qui tombent. Finalement, le meilleur traitement, c'est le bisou magique.
Regarde, il a un couteau planté dans le ventre, ça doit faire super mal. Je vais l'aider. Bisou magique. Ça marche trop.
Voilà, en fait, il a raison, c'est assez simple. Il suffit de se faire ses petits sachets de sucre ou ses petites boulettes de pain, et puis se convaincre que ça va apaiser nos symptômes, en y mettant toute la bonne intention qu'on peut avoir.
Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans. Parce que, ok, c'est peut-être... juste des pilules de sucre, mais quand il parle de l'homéopathique et qu'un placebo, en fait, il n'y a pas que la petite pilule de sucre que tu prends. En fait, tu vas voir un médecin, il va t'écouter, il va te poser plein de questions, tu vas aller chez le pharmacien, t'as ta prescription, enfin, tu vois, t'as confiance en ce qu'on te prescrit, puis il y a tout le rituel avec un objet qu'on connaît, enfin, il y a vraiment tout un contexte autour, même la couleur, le prix, l'emballage, le nom qu'on va donner, en fait, c'est ça qui va faire que ça fonctionne. Il y a une puissance symbolique que toute seule dans ton coin, je suis pas sûre en fait que tu sois capable d'aller la chercher. Et malheureusement, tu vois, on a montré que c'est très inconscient que ça se passe, et décider qu'on va avoir la bonne volonté et que ça va marcher, je suis pas sûre qu'on ait ce pouvoir-là en fait.
C'est vrai, quand on repense à ce que disaient les femmes tout à l'heure qui témoignaient de leur expérience du placebo sur leur ménopause, elles parlent beaucoup de l'importance de la relation avec leur médecin notamment. Et le fait qu'elles aient pu parler de leur douleur, avoir la sensation d'être écoutées. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout le cadre et la démarche du soin qui a plus fait qu'effectivement la simple pilule, t'as raison. C'est une question de confiance, quoi.
Tu vois, c'est ça, j'ai l'impression que, en fait, en parlant du placebo, j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route. On est dans une logique ultra pharmaco-centrée. Alors qu'en fait, comme tu dis, tout ce qu'on a vu, c'est que ce qui est central dans l'effet placebo, c'est la relation humaine. Et je crois que c'est... En fait, c'est à ça qu'il faut s'intéresser.
Et c'est justement ce à quoi on va s'intéresser dans l'épisode 5. Alors rendez-vous demain, même heure, mêmes ondes, sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et en attendant...
Est-ce que je te demande si ton voisin a du lino ?
Des questions plein la tête ? Une série à réécouter en podcast sur Radio Campus Grenoble à la page de l'émission.
I was alone, falling free, trying my best not to forget. What happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it.
Baby, did you forget to take your meds? Baby, you forget to take your meds.
I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget. All manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it.
Your meds, baby. Did you forget to take your meds, baby?
down, falling free, trying my best not to forget.